Voilà, tu es membre d'une équipe pastorale. Donc tu sais bien que la question de la scène est une question identitaire dans nos églises évangéliques. Et qu'il y a donc un risque certain, à oser s'aventurer sur ce sujet, sur ce terrain. Donc, à travers ton expérience, pourrais-tu nous dire comment, dans les églises où tu as servi, vous avez abordé ce sujet?
Oh, c'est une difficile question. Parce que, bon, je suis personnellement pas un homme très, très directif. C'est pas dans mon mode de fonctionnement, donc j'essaye d'avancer plutôt avec douceur et en prenant le temps. Donc j'essaye de faire passer des idées, c'est clair. J'essaye de faire passer une vision différente. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'au départ il y a un petit fascicule qui avait été édité il y a maintenant 2 ans, et puis il y a un petit exemplaire qui mystérieusement s'est perdu en Suisse et qui a conduit à quelque chose de plus important. C'est pas évident parce que très souvent, lorsqu'on préside la scène, on tombe dans des sortes de routines. Hein? Il y a ça aussi. Il y a peut-être aussi la peur dans nos communautés de mettre peut-être trop d'éléments liturgiques et de faire croire ou de laisser croire qu'on pourrait être plus réformé ou plus catholique dans, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de la scène. Ben, ce qu'il faut, c'est essayer de faire comprendre, de faire passer et...
Alors, tu soulèves un point, je trouve, intéressant. Et j'aimerais que tu nous dises juste un mot sur une phrase qui apparaît dans ton ouvrage où tu nous dis « Il y a des liturgies sclérosantes qui n'apportent rien, mais il y a aussi des formes spontanées qui sont un éloge de l'improvisation et de la médiocrité. » Des paroles assez fortes.
Oui. Mais je dirais d'abord ceci. On peut construire une liturgie de la scène qui est extraordinairement bien faite, bien bâtie et tout, et il se passe rien. On peut avoir des présidences qui n'en sont pas, et il se passe quelque chose. Donc, ça nous rappelle d'être très modestes, et que finalement, c'est quand même le Seigneur qui, en dernier recours, a le dernier mot. Mais je pense quand même que, une scène qui est vécue dans le bruit, dans une certaine agitation, où vraiment, comme je racontais tout à l'heure, où quelqu'un se lève et puis il distribue et puis c'est tout, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, il y a un travail à faire dans la qualité, dans la profondeur, pour que ce moment devienne un moment véritablement parlant pour ceux qui sont présents. Est-ce que ça répond ?
En partie.
En partie, oui.
À un endroit de ton ouvrage, tu nous invites à vivre une célébration de la scène joyeuse. Et quelques lignes plus tard, tu relèves qu'il y a une sévère mise en garde en lien avec la manière de participer à la scène. Et puis tu parles du texte de Paul qui parle de jugement sur ceux qui l'apprennent son discernement. Et j'aimerais te demander comment tu fais pour concilier en pratique à la fois cette invitation à la joie et puis en même temps avec ces textes qui nous parlent de discernement, de jugement, et qui ont une certaine gravité.
Pour moi, ça me semble assez logique, finalement. Si on prend la peine de s'arrêter, de s'examiner, de se positionner par rapport à ce repas, c'est un repas de joie, un repas de liberté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est une bonne chose, finalement, que ça ait dérapé à Corinthe. Parce que sinon, on aurait eu simplement les textes où l'institution du repas nous est donnée, et puis acte 2 qui nous dit qu'il persévérait dans la fraction du pain, ou d'autres textes encore qui en parlent. Le fait que ça ait dérapé, ça nous permet de prendre conscience que c'est pas un repas que l'on prend à la légère. Et si je fais l'effort de me remettre en question lorsque je prends le repas, ou avant de le prendre, ça devient un repas de liberté. Ça devient un repas qui me réintroduit dans ma communion avec le Seigneur. Donc, un repas joyeux. C'est le lien que je ferai entre la joie et quand même le sérieux. Donc, attention aussi peut-être de faire des scènes qui deviennent tellement sérieuses qu'elles en deviennent tristes. Donc, attention, c'est un repas de fête. C'est un repas de fête. Le Christ le dit dans l'évangile de Luc, « J'ai tellement désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. » C'est étonnant que le Christ se réjouit de prendre ce repas avec ses disciples, alors qu'il sait parfaitement qu'après, il y a Gethsémané, il y a la croix et la mort.
À part le fait de lire ton ouvrage, quel conseil tu donnerais à ceux qui servent régulièrement la scène dans une église ? Très, très brièvement.
Il est vache dans ces questions. Hein. Oh, paf, dit. Très brièvement, ne pas en faire quelque chose de banal. C'est banal ce que je dis, mais c'est pas si banal que ça, je crois. De se poser la question, j'ai parfois l'impression qu'on se la pose pas. On a un petit rituel qui existe, et puis parfois j'ai un peu l'impression que la scène, quand elle est vécue entre la louange et la prédication, c'est un peu une sorte de petit break, quoi. On fait une petite pause, on prend un peu de vin, on prend un peu de pain, et puis on passe à la suite. Donc moi je crois que ceux qui sont appelés à présider doivent se poser la question pour eux-mêmes ce que ce repas signifie, et puis se poser la question, mais comment est-ce que je vais faire passer un certain nombre de choses? Alors je crois que la scène, il y a tellement de richesse dans ce repas qu'on ne peut pas tout dire. Mais peut-être avoir ce désir un dimanche d'insister sur un aspect, un autre dimanche sur un autre. Dans le livre, je donne toute une série de textes des évangiles qui sont des textes de repas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de repas, que ce soit chez Zachée, que ce soit chez Lévi, que ce soit chez Marthe et Marie, etc. Je crois que ce sont des textes qui peuvent nous aider à construire, je dirais entre guillemets, une liturgie de la scène. On peut, par exemple, les disciples d'Emmaüs, c'est un texte extraordinaire, ils sont dans la tristesse, ils sont dans la préoccupation, le Christ les rejoint, le Christ les enseigne, et le Christ les reçoit à sa table. Et au moment du partage du pain, leurs yeux s'ouvrent. Donc là, il y a des éléments très pratiques que l'on peut mettre en œuvre et qui vont peut-être nous faire sortir simplement de la répétition de quelques mots que l'on répète dimanche après dimanche dans la simple répétition de quelque chose que l'on fait dimanche après dimanche.
Merci. Et puis alors une toute dernière question et encore plus brièvement, toujours à part le fait de lire ton ouvrage, mais qu'est-ce que tu conseillerais à chacun d'entre nous ce matin, alors que dans quelques instants, on va participer à la scène?
De prendre conscience que c'est le Christ qui nous accueille, que c'est lui qui nous a invités, et prendre conscience de sa mort à la croix. Enfin, c'est très difficile de dire cela, parce que je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. Hein. Si je suis en manque de communion, eh bien je vais prendre conscience qu'à travers ce pain et ce vin, il veut me nourrir et me désaltérer. Si par contre je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas en règle dans ma vie, c'est l'occasion de mettre en ordre. C'est aussi l'occasion, je pense, dans la communauté, s'il y a des tensions entre frères, de ne pas passer dessus en disant bof, mais de se dire mais je suis en désaccord avec un frère, ce serait peut-être le moment, avant de prendre le repas, d'aller lui demander pardon ou de recevoir d'aller vers lui. Je pense que si on vivait ça, alors il ne faut pas le faire de vivre de manière systématique, mais si on le vivait, tu me laisses encore une minute ou deux, ou pas ?
30 secondes.
Vraiment, en 30 secondes, je ne pourrais pas le dire. Je vous le dirai après alors. Mais on a déjà vécu à une ou deux reprises dans notre communauté des situations de tension, et on a dit on ne peut pas prendre la scène dans cette situation-là. Donc elle était là. Mm-hmm. Et puis, après un enseignement, il y a un des frères qui avait vraiment fait du tort à d'autres, et c'était en plus le plus âgé, c'est intéressant. J'ai rien contre, non si. Et il reste 5 secondes, et non, il s'est levé, il est allé demander pardon à son frère, qu'il avait offensé, et on a vécu un moment de communion extraordinaire. C'est là où est le lieu de guérison, individuel et communautaire.
Merci pour cette dernière réponse qui nous introduit dans ce temps du partage de la scène ce matin. Et puis, à la fin du culte, voilà, vous pourrez tous, si vous le souhaitez, acquérir cet ouvrage au prix de 10 francs. Alors, ils sont sur la table ici, sur ma gauche. Et puis, vous pouvez mettre l'argent dans la boîte en carton. Voilà, un grand merci à Claude Villain pour ce partage. Et puis, merci au Seigneur pour les dons qu'il fait à son Église à travers cet ouvrage.